Bonjour à chacune et à chacun, et je me permets de le faire dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Soyez bénis là où vous êtes, et surtout merci de nous accueillir chez vous pour partager d'une part ce temps de louange, mais aussi d'écoute de la parole de Dieu. L'année est semée de plusieurs fêtes chrétiennes. Noël, qui nous rappelle ce Dieu qui vient vers nous pour nous sauver. La fête de Pâques, qui rappelle le sacrifice de Christ, mais aussi qui nous rappelle que Christ est sorti victorieux de Satan, du péché, de la mort, et qui donne ainsi une espérance vivante à notre foi. Vient ensuite l'Ascension, qui se situe 40 jours après Pâques et qui rappelle que le Seigneur Jésus est retourné auprès du Père d'où il venait pour nous sauver. Et là, dans le ciel, nous nous rappelons qu'il intercède pour nous, qu'il nous prépare une place et que c'est de là qu'il revient bientôt. Et aujourd'hui, nous nous rappelons cette fête de la Pentecôte, dont le suffixe « pen » se retrouve dans pas mal de mots de notre langue française, tels que, pour ceux qui se rappellent de l'école, le pentagone, pen, 5, gone, côté, angle, c'est donc un polygone à 5 angles ou 5 côtés. Ainsi, Pentecôte veut donc dire 50e jour après un événement, et dans le cas qui nous occupe, 50 jours après la fête de Pâques. Et une fête, Pentecôte, que nous nous rappelons en ce jour du 31 mai 2020. Je vous invite à faire la lecture de quelques textes bibliques qui encadreront le partage de la parole de Dieu. Le premier, alors que le Seigneur Jésus se dirige vers Jérusalem pour être crucifié, voilà ce qu'il nous est dit en réponse à quelques Grecs qui désirent voir Jésus. Voilà ce que Jésus dit. L'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombe en terre, ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ainsi donc, pour qu'il y ait semaille, pour qu'il y ait une moisson, il fallait que Jésus lui-même meure pour nos péchés. Jésus se retrouve avec ses disciples dans la chambre haute, en train d'instituer la Sainte Cène lors de la Pâque juive. Il va donner une autre dimension. Et avant de quitter cette chambre haute, et de se diriger vers Gethsémané, vers la croix du calvaire, il leur parle du Saint-Esprit, pour leur rappeler qu'ils ne seront pas orphelins, que lui viendrait à eux. Et plusieurs textes, j'en prends un seulement, dans Jean chapitre 16, il parle du Consolateur qui sera avec vous, mais il dira, il sera avec vous. Constamment avec vous. Et nous lisons dans Jean 16, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité que le Père enverra en mon nom, alors l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses qui doivent arriver. » Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et puis je fais la lecture d'un texte écrit par l'apôtre Paul sous la dictée du Saint-Esprit. Paul qui va nous révéler le mystère profond caché de Dieu, à savoir l'Église. Et voilà ce qu'il dira dans 1 Corinthiens, l'épître de 1 Corinthiens au chapitre 2. Et nous lisons au verset 7. Nous prêchons, nous, la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée aux hommes, que Dieu, avant les siècles, avait préparée pour notre gloire. Car il est écrit, « Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. » Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel parmi nous les hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données dans sa grâce. Afin, avant de parler de ce texte, de ces textes merveilleux, je voudrais que nous nous inclinions dans la prière, parce que nous avons besoin d'être secouru par le Seigneur, l'Esprit. Notre Dieu et notre Père en Jésus, alors que nous allons ouvrir ta parole, une parole qui contient les pensées profondes de tes projets, de tes promesses, de ton plan pour nous. Cette parole qui nous parle de qui tu es, à la fois dans ta sainteté, dans ta justice, mais aussi dans ton amour, dans ta grâce. Alors, ce sont des choses qui dépassent notre entendement. Et qui sommes-nous pour les comprendre et surtout pour les pratiquer dans notre vie? Ces paroles, tes pensées sont tellement éloignées des nôtres. Aussi haut sont éloignés les cieux de la terre, aussi haut sont nos pensées éloigné de toi. C'est pourquoi nous te demandons, ô notre Dieu, viens à notre secours, viens comme on l'a chanté au début, viens ouvrir notre cœur pour que nous puissions comprendre ton projet à notre égard lorsque ton esprit vient et anime nos pensées, anime nos vies. Alors que ton esprit donc éclaire ta parole et qu'elle devienne ainsi vie pour nous et pour ceux que nous allons côtoyer. Nous te le demandons, Père, au nom du Seigneur Jésus, et pour la gloire de ton nom. Amen. Je vous invite à suivre avec moi la réponse à deux questions que je me suis posées. Pentecôte existait-elle avant notre ère chrétienne? Si oui, sous quel nom? Et alors, y a-t-il une suite logique entre ce que nous fêtons aujourd'hui et qui existe depuis 2000 ans? Et la deuxième question que je me pose, et auquel nous allons répondre ensemble, comment cette fête qui existe depuis 2000 ans, peut-être même davantage, peut-elle être vécue encore aujourd'hui? Ou, autrement dit, comment ma vie peut-elle être influencée au quotidien par cette fête de Pentecôte? Abordons la première question. Pentecôte existait-elle avant l'ère chrétienne? Sous quel nom? Et l'ère que nous vivons, dans laquelle nous sommes, où nous fêtons aujourd'hui la fête de la Pentecôte, est-elle en lien avec ce qui existait avant? Dans Actes chapitre 1er, le jour de l'ascension, Jésus avait donné un ordre à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem et de rester dans la ville. Nous lisons donc dans Actes chapitre 1er et au verset 4. Comme Jésus se trouvait avec eux, avec ses disciples, avec les douze, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père leur avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Attendre. Un ordre assez étrange, bizarre, rare dans la bouche du Seigneur Jésus. C'est plutôt, quand il parle, une parole qui met en action, une parole qui met en marche. Il dira d'ailleurs un peu plus tard, « Allez, partons, hâtons-nous, allez, c'est immédiat, on y va, maintenant, aussitôt, aujourd'hui. » Mais voilà que parfois, comme pour les disciples, il faut attendre son ordre. Et c'est ce que nous sommes, les disciples en tout cas, le jour de la Pentecôte, sont en train d'attendre. Ils attendent cette mise en marche qui sera dite aux disciples lorsque le Seigneur va s'élever de la terre, où il leur dira, allez et faites de toutes les nations des disciples. Cela nous a été rappelé et lu. Mais pour l'instant, les disciples doivent rester sur place, prier. Et ils étaient là, dans cette chambre, sur l'ordre du Seigneur, à plus de 120, il y avait des femmes et les 12 disciples. Ils attendent la promesse que Jésus leur avait dit et que le Seigneur Jésus avait promis quand le Père enverrait le Saint-Esprit. Et ce temps d'attente dure 10 jours. Je ne sais pas si on organisait une réunion prière qui dure 10 jours, comment nous serions. Mais en tout cas, ici, il semblerait qu'il y a eu une attente où l'ensemble des croyants présents dans cette pièce, au nombre de 120 et davantage, 132, plus les femmes, aient attendu 10 jours. Et en ce dernier jour, de ces 10 jours d'attente, il y avait une foule nombreuse, au moins 10 000 personnes, qui sont venus dans la ville de Jérusalem, et ils sont venus à la fois de l'intérieur du pays, mais d'au-delà du pays. Et les Juifs étaient réunis à Jérusalem pour célébrer une fête, celle que Dieu avait donnée par l'intermédiaire de Moïse au peuple d'Israël. Cette fête s'appelait la fête de la moisson. Et nous lisons dans Exode, chapitre 23, au verset 16, ce que Dieu dit au peuple par l'intermédiaire de Moïse. Vous célébrerez la fête des moissons au moment où le peuple moissonne les premiers fruits des champs qu'il aura cultivés. Et en automne, à la fin de l'année, vous célébrerez la fête de la récolte lorsque vous aurez fini de récolter les produits de votre plantation. Dieu demande au peuple de se réjouir devant lui des premiers produits de la moisson. Moisson, bien sûr, qui se prolongera jusqu'à la fin de l'année. Mais je me pose la question, aujourd'hui, et depuis l'ère chrétienne, quels seront ces premiers fruits de la moisson spirituelle? Encore une remarque avant d'aborder le sujet et de répondre à la question. Il y a plus ou moins 2000 ans, et c'est un fait qui m'a marqué, qui est surprenant, cette fête de la moisson a coïncidé parfaitement avec le 50e jour après Pâques. C'est-à-dire le 50e jour après la résurrection du Seigneur Jésus. Reconnaissons qu'il n'y a que le maître de l'histoire, de la grande histoire, Dieu lui-même, qui puisse faire coïncider la fête de l'Ancien Testament, appelée la fête de la moisson, où l'on venait bénir le Seigneur pour les premiers fruits de la récolte, avec le 50e jour qui allait devenir la fête de la Pentecôte. Et tout comme le repas de Pâques juive dans lequel Jésus a instauré la Sainte Cène, en y donnant ainsi un souvenir et aussi une espérance lorsque nous la pratiquons. De même, la fête de la Pentecôte, si nous y réfléchissons, va prendre aussi un nouveau départ pour nous. Et je vous invite à prolonger ce qui a déjà été lu dans Actes chapitre 2, et je souligne que Il est 9 heures du matin. Ça fait 2000 ans que cette histoire s'est passée, et ça s'est passé le 50e jour après la résurrection du Seigneur Jésus, ou 40 jours après son ascension. 10 jours, pardon, après son ascension. Je ne lirai pas les 4 premiers versets qui ont été lus. Je commence à partir du verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des hommes, des juifs, pieux, qui étaient de toutes les nations. Et au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient l'un à l'autre, « Mais ces gens, ne sont-ils pas tous des Galiléens ?» Autrement dit, entre parenthèses, des gens peu instruits. Et comment pouvons-nous les entendre dans notre propre langue, dans notre langue maternelle? Et c'est alors qu'il y a eu un discours au sein de cette foule où chacun a exprimé d'où il venait, son origine. Les uns ont dit, « Ah, moi, je viens de Pâques. » Ah, un autre a dit, « Ah, moi, je viens de Mède. » Et ainsi, diverses régions ont été citées. Bon, des régions qui est difficile à retenir. Mais j'en lis quelques-unes, parce que nous les connaissons. Et parmi celles qui sont citées, il y en a qui ont dit, « Ah, moi, je viens de Mésopotamie. Ah, moi, je suis de la Judée. » Alors, un autre, de la Cappadoce, du Pont. Moi, je viens de l'Asie. Moi, je viens de l'Égypte, de la Libye. Ah, nous venons de Rome. Moi, je suis juif de naissance. Moi, je me suis converti à la religion juive. Moi, j'habite l'île de Crète. Moi, je viens d'Arabie. Et ainsi de suite. Mais alors, comment se fait-il que toute cette population qui ont une langue différente, peuvent-ils entendre les propos qui concernent Dieu lui-même, les choses merveilleuses que Dieu veut leur dire? Et pas étonnant qu'ils étaient, au verset 12, ils étaient tous dans l'étonnement, ne sachant que penser. Il y en a qui disent, « Oh, ils ont bu, ils sont ivres. » D'autres se moquaient. Et voilà que Pierre, à 9 heures du matin, ou selon certaines versions, c'était la troisième heure du jour. Et pour nous, si on doit la traduire à 9 heures du matin, Pierre se lève et dit, écoutez, à cette heure-ci, c'est pas possible, ils sont pas ivres. Et nous lisons ce que Pierre, en parlant bien sûr du prophète Joël, va leur dire, et nous arrivons au verset 21. Et Pierre de dire à cette foule, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, des prodiges, des signes, qu'il a opéré par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté de Dieu, selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous, les apôtres, nous en sommes témoins. Et maintenant, verset 33, il est élevé par la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit, qui avait été promis, et l'a répandu comme vous le voyez et comme vous l'entendez. Verset 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Et après avoir entendu ce discours, cette foule de plusieurs nations ayant entendu le conseil de Dieu dans sa propre langue, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous ? » Et Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez alors le Saint-Esprit. Et ceux qui acceptèrent la parole, au verset 41, étaient au nombre de 3000. Quelle moisson, bien-aimés! Quelle moisson! Il nous est dit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. La prédication de la croix, sous l'autorité et la direction du Saint-Esprit, a pour résultat le salut des âmes. Dieu a décidé de sauver l'humanité par ce que l'homme considère comme de la folie, voire même le scandale, par la prédication de la croix. Lorsque celle-ci est appliquée par le Saint-Esprit au cœur et aux consciences. Il nous est dit qu'en ce premier jour de Pentecôte, 3000 personnes se sont tournées vers le Seigneur Jésus, se sont repenties de leurs péchés, se convertirent et ils ont reçu d'une part le pardon et la certitude de la vie éternelle. Et c'est alors que le Seigneur les a ajoutés à une nouvelle famille, dont Paul révèle le mystère caché de tout temps, mais qu'aujourd'hui nous pouvons proclamer l'Église, corps de Christ. Quelle belle moisson, bien-aimés, en ce premier jour de Pentecôte, suite à la semence jetée comme nous l'avons lu. Il fallait que Jésus-Christ meure pour qu'une moisson soit levée. Plus tard, 5000 personnes. Et puis des familles de tous horizons, de toutes langues, de toutes tribus. Un évangile qui s'est répandu jusqu'aux extrémités de la terre, dont nous sommes, nous, dans nos Belgiques, encore bénéficiaires, bien que la Belgique s'éloigne de plus en plus de l'évangile. Nous sommes bénéficiaires de ce que cette parole nous est venue jusqu'à nous. Ainsi, depuis cette première fête de Pentecôte, l'Église grandit. Le Seigneur ajoute à son corps, qui est l'Église universelle, et ceux qui sont réellement nés de nouveau. C'est là le mystère profond que Paul révèle. Ceux qui sont nés de Dieu, qu'ils soient juifs ou non-juifs, sont scellés du Saint-Esprit dès qu'ils confessent et se repentent de leurs péchés. Ils sont introduits par le Saint-Esprit dans le corps de Christ, par le Seigneur lui-même, et participent dès lors aux promesses données par le Seigneur. Ainsi, depuis ce jour où le Saint-Esprit est venu pour faire son œuvre de conviction de péché, de justice et de jugement, en réponse à la confession, le Saint-Esprit donne la vie aux croyants. L'Église grandit. Oh, je ne parle pas de l'Église locale, bien que je souhaite qu'elle grandisse, et à laquelle nous nous sommes joints. Mais je veux dire par là que ce n'est pas parce que nous participons aux différentes rencontres d'une Église locale que nous appartenons à Christ. Seul le Saint-Esprit amène cette conviction dans notre esprit que Dieu est vraiment notre Père lorsque nous sommes nés de nouveau. Qu'est-ce qui fait donc la différence entre la fête de la moisson qui est, comme je vais l'appeler, la Pentecôte de l'Ancien Testament et la Pentecôte du Nouveau Testament de notre ère chrétienne? Voilà, il y aurait beaucoup à dire. Mais dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'habitait pas en permanence dans le croyant, mais reposait simplement sur lui, pour un temps, pour le temps d'une œuvre, d'une action. Par contre, dans le Nouveau Testament, le Seigneur a promis que le Saint-Esprit serait toujours avec nous, qu'il habiterait en nous et nous communiquerait sa grâce. À chacun, dès lors, de ne pas attrister le Saint-Esprit ni l'éteindre, mais constamment être sous son autorité. Ainsi donc, en ce dimanche 31 mai, nous nous souvenons d'une part du don du Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement, qui attire encore les hommes à Jésus-Christ, qui les fait naître à la vie de Dieu pour ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme mort et ressuscité. Un esprit qui unit, un esprit qui nous aide, même dans nos prières. Un esprit qui donne la conviction que nous sommes enfants de Dieu. Et d'autre part, la fête de Pentecôte, nous nous rappelons du début de la moisson, de l'Église, qui a commencé ce premier jour de Pentecôte et qui aujourd'hui est toujours en chantier. Elle n'est pas clôturée, elle sera terminée lorsque Jésus, comme il l'a promis, viendra chercher son époux, son Église. Alors, à nous de mettre tout en œuvre sous l'autorité du Saint-Esprit pour encore et toujours proclamer ce beau message de l'Évangile. J'avais au début posé une deuxième question. J'y réponds succinctement. Comment aujourd'hui peut-on encore fêter Pentecôte? Ou comment ma vie peut-elle montrer que cette fête est vécue au quotidien? Je vous invite à relire les paroles du Seigneur Jésus qu'il a prononcées dans la chambre lorsqu'il a institué la Sainte Cène et avant de partir vers la Passion, vers la croix. Jean chapitre 16, nous lisons, c'est Jésus qui le dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas la supporter, vous ne pouvez pas comprendre. » Et ce que nous avons lu de l'apôtre Paul, voilà, ce sont des choses que l'oreille n'a pas entendues, que l'œil n'a pas imaginées. Voilà, nos pensées sont loin et nous ne pouvons pas les comprendre. Seul le Saint-Esprit, quand il vient habiter dans un cœur, nous conduit et nous fait comprendre les réalités de ce Dieu si grand. Et je continue la lecture au verset 13. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses qui doivent arriver. Cet esprit me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Voilà un des objectifs du Saint-Esprit qui, de mon avis, est primordial. Est essentiel dans ma vie. Son but, c'est de me faire découvrir la parole de Dieu pour qu'elle devienne vivante en moi et que dès lors je glorifie notre Dieu, que je glorifie le Seigneur Jésus, à la fois dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actes. Le Saint-Esprit, quand il vient prendre possession d'un cœur, n'est pas là pour mettre une belle auréole au-dessus du croyant. Il n'est pas là pour le propulser en avant. Mais le Saint-Esprit est là pour porter l'attention au travers de ma vie sur Christ. Imaginez que nous soyons à la vitrine d'un bijoutier. Une perle précieuse est déposée, passe sur un écrin brillant, mais sur un simple écran de velours noir, simplement pour attirer l'attention sur la perle et non pas sur le boîtier, aussi beau soit-il. De même, le Saint-Esprit vient habiter dans mon corps, vient habiter en moi. Il fait de mon corps son écrin pour que je mette en valeur la personne de Christ, pour qu'au travers de ma vie, de notre vie, Christ soit vu, honoré et glorifié, pour qu'au travers de ma vie, je porte du fruit à la gloire du Seigneur Jésus et du Père. Dans la mesure où comme le sarment reste uni au cep, je reste moi, croyant uni à Jésus-Christ, le vrai cep, de façon à porter du fruit, le fruit que produit le Saint-Esprit en moi. Je suis appelé à l'apporter, mais appelé aussi à refléter les caractères du Seigneur Jésus, à être transformé de gloire en gloire à la ressemblance du Seigneur Jésus, et ça, sous l'action du Saint-Esprit qui applique la parole de Dieu à mon cœur. Ainsi, le chrétien rempli du Saint-Esprit n'est pas celui qui parle sans cesse du Saint-Esprit, mais celui qui le laisse agir pour glorifier Christ. Le jour de la Pentecôte, la moisson a commencé par la prédication de l'Évangile. Et rien du conseil de Dieu n'a été caché. Aujourd'hui, bien-aimés, si Christ est au centre de notre prédication, il est glorifié. Il ajoute des âmes qu'il sauve. La parole de Dieu doit agir en nous comme l'épée de l'Esprit. Elle est la vérité qui nous sanctifie. Et la parole de Dieu, lorsqu'elle est proclamée, lorsque la croix de Christ et sa résurrection et son ascension et son retour sont proclamées avec force sous l'action du Saint-Esprit, alors nous glorifions Christ. Laissons donc le Saint-Esprit agir dans nos vies. Laissons le Saint-Esprit souffler le vent divin de sa parole dans nos voiles. Étendons-les. Mettons les cordages à fond pour que rien ne vienne faire obstacle à la présence de Christ dans nos vies par le Saint-Esprit. Alors, Christ sera glorifié en nous et par nous. Et les gens verront que ce n'est plus moi qui vis, mais que c'est Christ qui vit sa vie en moi. Que le Seigneur bénisse sa parole pour chacun d'entre nous. Je cède la parole maintenant.